découverte du ciel à la découverte de l'univers. Les amis, bonjour, c'est Alain. Eh bien, aujourd'hui, dans notre émission d'astronomie, on va beaucoup parler de la Lune. D'ailleurs, on commence tout de suite, dans notre page d'actualité. On commence par Bereshit. La sonde israélienne qui a été lancée fin février, elle s'est posée comme prévu sur la Lune dans la mer de la Sérénité le 11 avril. Ce qui était moins prévu, c'est qu'elle s'écrase, parce que le moteur de descente n'a pas fonctionné. Et ça prouve, voyez-vous, ça prouve que c'est pas si facile de faire atterrir en douceur un engin là-bas. Ensuite, une annonce qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu astronomique et même dans le monde entier. La photographie d'un trou noir. Elle a été dévoilée le 10 février. Vous l'avez probablement vue à la télé ou dans les journaux ou dans les revues. Bon, si ce n'est pas le cas, je vous la décris. On a un fond noir, on voit un rond noir entouré d'un anneau rouge-orangé d'intensité variable. Le rond noir, c'est le trou noir. Ça correspond à une absence de lumière. L'anneau orangé, c'est de la matière, du gaz ionisé, qui tourne autour du trou noir à très grande vitesse avant d'être avalé par le trou noir. Et cette matière, elle s'échauffe et émet cette lumière. Ce qui est remarquable, c'est que cette image est très conforme aux prévisions de la physique théorique qui sont basés sur les équations de la relativité générale d'Einstein, qui datent de plus de 100 ans. Ce trou noir, il est situé dans la galaxie M87, c'est dans la constellation de la Vierge, à 55 millions d'années-lumière de nous. Son diamètre, 40 milliards de kilomètres. Sa masse, 8 milliards de fois la masse du Soleil. Pour réussir cette photo, il aurait quand même fallu utiliser un télescope de 10 000 kilomètres de diamètre, qu'on appelle l'EHT, l'Event Horizon Telescope. C'est un radiotélescope puisqu'on observe non pas dans le visible, mais dans une longueur d'onde de 1,3 mm. Par comparaison, 95.10, une fréquence que vous connaissez bien, ça correspond à une longueur d'onde de 3,15 m. Bien sûr, l'EHT, c'est un télescope virtuel. En fait, il est constitué d'un ensemble de radiotélescopes, il y en a une dizaine qui sont répartis sur toute la planète. Il y en a à Hawaï, en Californie, en Espagne, près de Cadix, au pôle sud il y en a un. Il y a aussi Alma, au Chili, avec ses 60 paraboles de 12 mètres de diamètre. Tous ces radiotélescopes observent le même objet au même moment. Leurs signaux sont ensuite recombinés tous ensemble, ça donne l'équivalent d'un télescope de 10 000 km de diamètre. C'est ce qu'on appelle l'interférométrie. C'est d'une précision redoutable. On verrait l'épaisseur d'un cheveu à 500 km. Les observations simultanées ont été réalisées en avril 2017. Il aura fallu 2 ans de calcul avec des ordinateurs super puissants pour arriver à la photo qui a été publiée le 10 février. Autre actualité de cet été. Le 2 juillet, éclipse totale de soleil. Ah, en Béarn, vous ne pourrez pas la voir. Pour la voir, il faudrait être en Amérique du Sud, au Chili, en Argentine. Je vous raconterai ça à la rentrée. Le 16 juillet, par contre, éclipse partielle de Lune, cette fois. Ah, celle-là, vous pourrez la voir. Il faudra regarder, juste au moment où la Lune se lève, l'éclipse partielle aura déjà commencé. Ça se passera vers 19h30. Il faudra regarder au sud-est. Et puis, souvenez-vous, le 11 août 1999, ça va faire 20 ans. C'était l'éclipse totale de soleil qui a été visible en France, dans le nord de la France. C'est pour moi un souvenir inoubliable. J'étais sur la ligne de centralité entre Reims et Sedan. Et puis le 13 août, comme tous les ans, c'est des Perséides, c'est des étoiles filantes, la Terre rentre dans la poussière laissée par la comète Swift-Tuttle, il faudra regarder la nuit, mais de préférence en fin de nuit. Ben voilà, voilà pour l'actualité aujourd'hui. Maintenant, les amis, je vous propose une promenade. Où ça? Dans le passé. Mais un passé relativement récent, vous vous en souvenez probablement, mais vous en avez au moins entendu parler. C'était le 20 juillet 1969. Ce jour-là, Eddy Merckx remporte son premier Tour de France avec la fameuse étape Luchon-Mourinx, où il arrive seul avec 8 minutes d'avance. Mais il y a aussi ce jour-là un autre événement qui va rester à jamais gravé dans l'histoire de l'humanité. Un homme, un Américain, Neil Armstrong, pose le pied sur la Lune. Oui, ça va faire 50 ans bientôt, et on va en parler dans les journaux, et à la télé, et même à la radio, et c'est l'histoire d'Apollo 11 que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais avant, commençons par restituer le contexte de l'époque. On est dans les années 50. On est en pleine guerre froide. Ça veut dire que les États-Unis et l'URSS sont armés jusqu'aux dents pour se détruire. Concrètement, ils mettent au point des missiles pour envoyer une bombe atomique sur l'adversaire. Ces missiles, c'est ce qu'on appelle des missiles balistiques. Ça veut dire qu'ils décollent et au terme d'un vol parabolique, ils atteignent leur objectif. Ces missiles, ces fusées, sont toutes dérivées des V2 allemands de la guerre. Mais on les a perfectionnés, on rajoute un deuxième étage, puis un troisième étage. Il faut savoir que les missiles soviétiques sont plus performants que ceux des Américains. Pour deux raisons. La première, c'est que les Américains ont miniaturisé leur bombe atomique, donc ils ont besoin d'un vecteur, d'une fusée, d'un vecteur moins puissant pour le propulser. Et puis la deuxième raison, c'est que les Américains ont des bases en Europe, donc il n'est pas nécessaire pour eux d'avoir des missiles de très longue portée pour atteindre le territoire de l'Union soviétique. La réciproque n'est pas vraie. 1957-58, c'est l'année mondiale de la géophysique. Et pour s'associer aux différentes manifestations qui sont organisées, les États-Unis projettent de mettre en orbite un satellite artificiel. Mais le 4 octobre 1957, les Russes lancent le fameux Spoutnik, petite sphère de 60 cm qui fait bip-bip. 4 octobre 1957, on peut dire que c'est le coup d'envoi de la course à l'espace. C'est bien sûr un choc dans l'opinion publique américaine qui croyait en la supériorité technologique de leur pays. C'est un choc et une inquiétude aussi chez les militaires américains qui constatent, et ça on n'en a jamais parlé à l'époque, qui constatent que le troisième étage de la fusée a lui aussi été mis en orbite. Ça veut dire que l'URSS peut frapper n'importe quel point du territoire américain au terme d'un vol orbital. Et contre ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Réaction américaine, 1er février 1958, mise en orbite d'Explorer 1. Explorer 1, c'est un petit satellite qui a à son bord un compteur Geiger. Ça permet de découvrir ce qu'on appelle maintenant les ceintures de Van Allen. Ce sont deux zones de radiation qui entourent la Terre entre 1000 et 10 000 km la première, puis une autre plus loin vers 50 000 km. Et ça, ça pose un problème pour les astronautes qui partent vers la Lune ou qui reviennent. Parce qu'il faut calculer les trajectoires de façon à minimiser le temps d'exposition aux radiations de ces astronautes. Dans la foulée, le président Eisenhower, en 1958, crée la NASA pour fédérer les efforts américains qui étaient un peu dispersés, parce que entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la Navy, chacun voulait son missile. Après le camouflet de Spoutnik, deuxième camouflet, Gagarine. Le 12 avril 1961, le premier homme dans l'histoire est russe, c'est Gagarine, Yuri Gagarine, qui va faire un seul tour de la Terre. Réplique américaine trois semaines après, ils envoient Shepard dans l'espace pour un vol qui va monter à 187 km et qui va redescendre, mais sans faire un tour de la Terre. Pour la mise en orbite, il va falloir attendre John Glenn en février 1962 qui va lui faire 7 révolutions. Une autre date marquante dans l'histoire de la course à la Lune, c'est le 25 mai 1961. Ce jour-là, le président Kennedy fait un discours devant le Congrès où il fixe clairement l'objectif, un Américain sur la Lune avant la fin de la décennie. Ça entraîne une mobilisation de tous les moyens humains et financiers. Côté Lune, les Russes accumulent régulièrement les premières avec le programme Luna. Luna 1, premier survol de la Lune, janvier 59. Septembre 59, Luna 2 s'écrase sur la Lune. Octobre 59, Luna 3, première photo de la face cachée de la Lune. Février 66, Luna 9, premier alunissage en douceur. Avril 66, Luna 10, première mise en orbite autour de la Lune. Côté américain, c'est le programme Surveyor sur la sonde Surveyor 1 qui se pose en douceur en juin 66. Mais, bon, revenons au programme Apollo et à Apollo 11. Avant Apollo 11, il y a eu des missions précédentes. On va surtout retenir, d'ailleurs, Apollo 8. C'est la première mise en orbite d'astronautes autour de la Lune. Ça se passait à Noël 68. Et là, on a en tête la fameuse photo où on voit la Terre se lever sur le paysage lunaire. un lever de terre vu depuis la Lune. Mais quand on voit un homme marcher sur la Lune, il y a un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre. La première question, les amis, c'est aller sur la Lune. Oui, oui, mais où se poser ? Pour des raisons qui sont liées aux trajectoires et à la consommation en carburant, il est plus facile de se poser au niveau de l'équateur. Ensuite, il faut un terrain plat, bien sûr. Ça veut dire pas de montagne ni de falaise à proximité. Donc il faut se poser dans ce qu'on appelle une mer, un endroit qui a été recouvert par de la lave liquide qui s'est solidifiée, dont le sol est à peu près horizontal. Les mers, ce sont les zones sombres qu'on voit quand on regarde la pleine lune. Il faut aussi avoir des cartes pour pouvoir sélectionner, présélectionner plutôt, un certain nombre de sites possibles. C'est la raison pour laquelle la NASA, en 1963, va financer le miroir du télescope de 1 mètre de l'observatoire du Pic du Midi, afin de cartographier l'ensemble de la Lune et de pouvoir faire une présélection des différents sites possibles. Et à partir de 1966, on aura une cartographie beaucoup plus détaillée des zones présélectionnées grâce à des sondes qui seront mises en orbite autour de la Lune et qui prendront des photos très précises. Finalement, le site qui est retenu, c'est, parmi la trentaine de sites présélectionnés et étudiés, le site retenu, ça sera la mer de la Tranquillité. Quand vous regardez la pleine lune, les amis, en haut à droite, près du bord, à 2 heures, il y a une petite mer qui est pratiquement circulaire. C'est la mer des crises. Et juste en dessous, un peu à gauche, c'est la mer de la Tranquillité. L'amunissage aura lieu en bas de cette mer de la Tranquillité. Une fois le site choisi, la seconde question, c'est quel est l'état du sol ? Oui, parce que la lune qu'on voit briller, elle n'émet pas de lumière par elle-même. Elle se contente, si je puis dire, de réfléchir la lumière du soleil. Et en analysant cette lumière réfléchie, et notamment en faisant des mesures de polarimétrie, on sait très bien que la surface de la Lune est recouverte de poussière, qu'on appelle le rigolite. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est l'épaisseur de cette couche de poussière. Parce que quand on veut marcher sur la Lune, 3 cm ou 3 mètres, ce n'est pas du tout pareil. On va donc envoyer des sondes, c'est le programme Surveyor, des sondes qui atterrissent en douceur, qui font des mesures et qui vont donner de précieuses indications sur la consistance et la nature du sol lunaire, ainsi que sur les techniques de descente et d'atterrissage en douceur. La troisième question, c'est mais à quel moment de la journée lunaire il faut y aller ? Sachant quand même qu'en pleine nuit sur la Lune, la température est de moins 175 degrés. En plein jour, elle est de 125 degrés. L'idée, pour éviter ces températures extrêmes, c'est d'y aller au moment, un petit peu après le lever du soleil, au moment où la température est de l'ordre de 60-70 degrés. Sur Terre, ça correspondrait à quelque chose entre 7h et 9h du matin. Pour la mer de la Tranquillité, c'est aux environs du quatrième jour de la lunaison. Ce qui, compte tenu de la durée du trajet Terre-Lune, va fixer ce qu'on appelle la fenêtre de lancement. 16 heures à chaque lunaison, 16 heures tous les 29 jours et demi. Les conditions de température qui régneront quand les astronautes seront là-bas vont avoir des implications quant aux combinaisons. Ces combinaisons, d'abord elles sont blanches, pour réfléchir 90% du rayonnement solaire, et ensuite elles vont comporter une quinzaine de couches isolantes, ainsi qu'un système de refroidissement interne de la circulation d'eau. Et l'ensemble, combinaison, plus les réserves d'oxygène, c'est l'espèce de sac à dos qu'ils portent, cet ensemble pèse 80 kg sur Terre, et sur la Lune, ça fait plus que 13 kg. À propos de lancement, il faut aussi mettre au point le lanceur. Ça sera la fameuse fusée Saturne V. Qui reste l'engin le plus puissant jamais construit par l'homme. 110 mètres de haut, 10 mètres de diamètre, 3 étages, 11 moteurs, 3048 tonnes au décollage, dont 2700 tonnes de carburant. La Saturne V a été utilisée 13 fois sans aucun échec. Elle est assemblée dans un bâtiment, le VAB, qui est gigantesque. 220 mètres de long, 160 mètres de large, 160 mètres de haut, 160 mètres. C'est le point culminant de tout l'état de Floride. La fusée est ensuite amenée verticale jusqu'à son pas de tir, le pas 39A, grâce à une espèce de véhicule à chenilles. La puissance de la fusée Saturne V, est corrélé avec le scénario choisi. Et celui qui a été retenu, c'est celui qui minimise la quantité de carburant nécessaire, donc qui minimise la masse au décollage. Ce scénario consiste à envoyer vers la Lune un ensemble constitué d'une part des modules de commande, c'est la capsule tronconique, et du module de service, qui contient le moteur et le carburant. Ces deux vont rester en orbite autour de la Lune, et d'autre part, il est constitué du module d'atterrissage, le fameux LEM, qui va se poser sur la Lune. Il y aura deux astronautes à bord. Le LEM comprend, lui, deux parties qui ont chacune leur moteur. Il y a l'étage de descente, qui va rester définitivement sur la Lune, et l'étage de remontée, qui va permettre aux astronautes de rejoindre le module lunaire, qui lui, est resté en orbite avant de revenir sur Terre. Et le dernier point, c'est l'équipage, hein. L'équipage, Neil Armstrong, commandant de mission et pilote du module lunaire. Buzz Aldrin et Michael Collin, lui, c'est le pilote du module de commande. En 1969, ils ont 38 ans, 39 ans. Avant de rejoindre le corps des astronautes, ils ont tous été pilotes de chasse. Aldrin et Collins appartiennent d'ailleurs toujours à l'US Air Force. Armstrong, lui, est devenu civil. Il est pilote d'essai à la NASA. Ils ont tous les trois l'expérience du vol dans l'espace parce qu'ils ont participé au programme Gemini, qui a précédé le programme Apollo. Dans les mois qui précèdent le lancement, ils ont eu un entraînement, mais alors plus que poussé. Ils ont répété des centaines de fois toutes les procédures et tous les gestes qu'ils auront à faire lors des différentes phases de la mission. Armstrong, le pilote du LEM, a appris, non sans mal d'ailleurs, à maîtriser cet engin un peu bizarre. Il a même dû une fois s'éjecter en vitesse avant que son LEM d'entraînement ne s'écrase au sol. On peut dire qu'ils sont fin prêts. La suite dans la deuxième partie de l'émission. Si vous nous rejoignez sur 95.10, les amis, vous avez bien raison. Aujourd'hui, notre émission d'astronomie est, anniversaire oblige, consacrée à Apollo 11. Bientôt 50 ans, déjà. Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé des préparatifs. Maintenant, nous sommes le 16 juillet 1969 à 6h30 heure américaine, où ça, à Cap Canaveral, qu'on appelle aussi Cap Kennedy. Les trois astronautes, équipés de leur combinaison de vol blanche, prennent un minibus qui les emmène au pas de tir 39A, où les attend depuis trois jours la fusée, l'énorme fusée Saturne V. Ils vont s'installer tout en haut, dans ce qu'on appelle le module de commande. C'est la petite capsule conique. Armstrong à gauche, Aldrin au milieu, Collins à droite. 9h32, heure locale. Mise à feu, à la seconde prévue. Les 3000 tonnes de la fusée s'élèvent très lentement tout d'abord, puis accélèrent. Il y a 3000 journalistes, 10 000 invités, et puis probablement plus d'un million de personnes qui sont massées dans les routes environnantes et qui regardent la fusée partir. Dès l'instant où la Saturne V est entièrement dégagée de la tour de lancement, c'est le centre de contrôle de Houston qui remplace celui de Cap Canaveral pour prendre en charge le suivi de la mission. Après 2 minutes 44, arrêt et séparation du premier étage. Avec ses 5 moteurs, il aura quand même brûlé 15 tonnes de carburant par seconde. On est à 62 km d'altitude, vitesse 8600 km/h. C'est le tour du second étage de fonctionner pendant 6 minutes et demie. Il emmène tout le monde à 185 km et à une vitesse de 24 600 km/h. Et le troisième étage va terminer le travail. Il se place en orbite autour de la Terre, à 192 km d'altitude, après 2 minutes 30 de fonctionnement. Après un tour et demi de la Terre, le troisième étage est rallumé pendant 6 minutes pour fournir une poussée supplémentaire qui lui permet d'échapper à l'attraction terrestre et d'envoyer Apollo 11 vers la Lune. 30 minutes plus tard, il y a une manœuvre délicate. L'ensemble module de commande et module de service se détachent du troisième étage, pivotent de 180 degrés et reviennent s'amarrer au module lunaire qui, lui, est resté au sommet du troisième étage. À ce moment-là, ensuite, le troisième étage est largué, il va poursuivre une route qui l'emmène vers le Soleil. Et le train lunaire est en route avec, en tête, il y a le module lunaire, avec son étage de descente et celui de remontée, c'est ce qu'on appelle le LEM. Derrière, il y a le module de commande, où sont les astronautes. Et puis, accolé derrière, il y a le module de service, avec le moteur, les réserves de carburant et d'oxygène. Le voyage dure 3 jours. Et les hommes s'occupent comme ils peuvent. Alors, ils vérifient tout, bien sûr. Ils inspectent le LEM. Il y a des petites, minimes corrections de trajectoire. Puis aussi, ils prennent des photos de la Terre qui s'éloigne et qu'ils envoient régulièrement à Houston. Ils font même des émissions de télé en direct du cockpit. Et puis, bien sûr, ils essaient de dormir. Le 19 juillet, le train lunaire se met en orbite autour de la Lune à 110 km de la surface. Les astronautes essaient d'observer le site d'atterrissage prévu. Et après 9 tours, Armstrong et Aldrin pénètrent dans le LEM. Et à la 13e révolution, le LEM se détache et commande sa descente. Collins, lui, il reste tout seul dans le module de commande. Arrivé à 15 km de la surface, le LEM se redresse en position verticale, les pattes vers le bas, et le moteur de descente est rallumé et va rester allumé jusqu'au contact avec le sol. La descente pour Apollo 11 est quand même un peu mouvementée. Déjà, le LEM a légèrement dévié de la trajectoire prévue. Et puis surtout, il y a une alarme qui retentit, l'alarme 1202. Cette alarme indique une surcharge de l'ordinateur de bord. Vous voyez, parce qu'en 1969, les plus puissants ordinateurs embarqués sont nettement moins puissants que celui du moindre smartphone d'aujourd'hui. Concertation avec Houston, on décide de continuer la procédure, l'alarme retentit à nouveau, ça perturbe un peu Armstrong, et finalement, à 230 mètres d'altitude, Armstrong décide de prendre des commandes manuellement parce qu'il voit bien que le pilotage automatique va l'emmener droit dans un cratère. Armstrong va se poser un peu après ce cratère. Après 102 heures, 45 minutes et 40 secondes, le LEM touche le sol lunaire, il reste une vingtaine de secondes de carburant. En France, il est un peu plus de 21 heures ce dimanche 20 juillet 1969. Après une vingtaine de secondes, le temps d'éteindre le moteur, Armstrong annonce à Houston, ici, la base de la tranquillité, Eagle s'est posée. À Houston, alors gros soulagement. Eagle, c'est le nom de code du LEM. Pour le module de commande, c'est Columbia. Eagle, c'est en référence à l'insigne de la mission qui représente un aigle symbole des États-Unis, en train de se poser tout aile déployée sur un sol constellé de cratères. Et cet aigle tient dans ses serres un rameau d'olivier, symbole de paix. Et puis dans le ciel, au loin, on aperçoit la Terre. Eagle s'est posé. Mais où ? On ne sait pas exactement où il s'est posé. D'ailleurs, on ne le saura pas pendant tout le séjour sur la Lune. C'est qu'au retour qu'on pourra calculer que Armstrong s'était posé à 8 km de l'endroit prévu. Une fois posé, la première préoccupation, c'est de préparer l'étage de remontée au cas où il faille repartir en urgence. Ensuite, c'est la préparation de la sortie. Et là, c'est une suite de checklists qui sont répétées maintes et maintes fois, mais qui doivent respecter à la lettre. Checklist pour enfiler la combinaison, les bottes, le casque, les gants, pour mettre l'espèce de sac à dos qui contient la réserve d'oxygène, pour brancher le tout, tester les radios. Tout ça dans un espace minuscule de 4 mètres cubes et demi. Ça prend presque 6 heures. Puis c'est la dépressurisation de la cabine, qui est deux fois plus longue que prévu. Enfin, Armstrong ouvre la trappe et s'engage à plat ventre et à reculons sur la petite plateforme en haut de l'échelle. Dès qu'il peut, il tire un anneau qui libère le compartiment où se trouve la caméra qui va filmer sa descente. En France, c'est le 21 juillet. Il est presque 4 heures du matin. Et je regarde, avec plus de 500 millions de personnes, les images en noir et blanc que cette caméra nous envoie en direct. Oh, c'est complètement flou. On voit Armstrong qui descend alors très très lentement les 9 barreaux et qui saute sur le patin du LEM. À 3h56 minutes 23 secondes, Armstrong pose le pied gauche sur le sol de la Lune et prononce la phrase qui est restée si célèbre. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Armstrong décrit ce qu'il voit. Un paysage relativement plat, quelques gros cratères de 5 à 10 mètres, des milliers de petits cratères de 50 cm. Partout, il y a une fine couche de poussière qui gratte avec sa chaussure. Question couleur, en fait, il n'y a pas de couleur, tout est d'une blancheur blafarde. Pendant quelques minutes, Armstrong va faire des pas tout autour du module lunaire pour tester sa combinaison et pour tester également sa réaction face à la faible gravité de la Lune. La consigne, c'est de ne pas s'éloigner de plus de 30 mètres du LEM. Aldrin lui envoie avec une corde l'appareil photo et Armstrong va prendre toute une série de photos de tout ce qu'il y a aux alentours, c'est pour faire un espèce de panoramique, on dirait. Après une dizaine de minutes, Armstrong se fait rappeler à l'ordre par Houston parce que la première chose qu'il doit faire, c'est de prélever un peu de sol lunaire au cas où il faille repartir précipitamment, par exemple suite à un problème avec la combinaison. Il récupère un kilo de rigolite. Après 19 minutes, c'est Aldrin qui descend à son tour et qui lui décrit le spectacle avec le terme suivant. C'est une splendide désolation. Petit moment de cérémonie, les deux astronomes dévoilent une plaque sur le pied du LEM, déploient également le drapeau américain et reçoivent un coup de fil du président Richard Nixon. Puis Armstrong ramasse 15 kilos de rigolite. Tous les deux, ils installent des instruments scientifiques et un réflecteur laser qui va permettre de mesurer la distance Terre-Lune avec une précision de 15 cm au lieu des 500 mètres avant. Il y a aussi un sismomètre pour analyser les tremblements de Lune et puis un détecteur de vent solaire. Armstrong continue de collecter des morceaux. Alors cette fois, il prend des morceaux de roche, une vingtaine, et il décide d'aller voir de plus près le cratère qu'il a dû éviter avant de se poser. Un cratère de 30 mètres de diamètre, qui est situé à une cinquantaine de mètres du LEM. Il prend des photos, le tout sans dire un mot, parce qu'aller si loin, c'était pas du tout prévu dans le planning de la sortie. Et on ne s'apercevra de cette escapade uniquement quand les astronautes seront revenus sur Terre. Pendant ce temps-là, Aldrin, lui, il va remonter, et c'est le tour d'Armstrong de quitter le sol lunaire après 2h31. À l'extérieur et 21 kilos de roches récoltées. Le programme prévoit un repas et une nuit de repos, enfin 6 heures de repos. Bon, le repos, c'est pas ça, ils n'arrivent pas à fermer l'œil quasiment. Ensuite, il va falloir entamer la procédure de décollage. Seulement, en rentrant, Aldrin, avec son équipement, a cassé un bouton qui est nécessaire au démarrage du moteur de remontée. Il va falloir bricoler. Pour ça, ils vont utiliser la pointe d'un stylo, heureusement qu'ils avaient un stylo, pour réenclencher le bouton. Le moteur fonctionne parfaitement, et après 21h36 sur la Lune, le LEM s'envole et va effectuer avec succès le rendez-vous avec le module de commande qui lui est resté en orbite. Ils vont retrouver Collins qui à chaque révolution essayait de voir sans aucun succès l'endroit où le LEM s'était posé. L'étage de remontée est largué et va s'écraser sur la Lune. Et le moteur du module de service est remis en fonctionnement pour initier le retour vers la Terre, qui dure 3 jours. Ensuite, le module de service est largué avant de rentrer dans l'atmosphère et seule la capsule se pose dans le Pacifique à 3 km du point visé. À Houston, sur les écrans de contrôle, on peut lire partout « Mission accomplie ». Ça fait référence, bien sûr, à cette mission Apollo 11, mais ça fait aussi référence à l'objectif fixé par le président Kennedy dans son discours du 25 mai 1961. un Américain sur la Lune avant la fin de la décennie. Mission accomplie. Oui, mission accomplie, mais pas terminée, parce qu'on a peur qu'ils ramènent de la Lune des microbes ou des germes dangereux. Et avant même de sortir de la capsule, ils doivent enfiler une combinaison spéciale avant d'être transférés dans un caisson d'isolement qui les attend d'ailleurs sur le porte-avions. Un caisson où ils vont rester 21 jours. Ensuite, après, bon, c'est festivité, hein, défilé à Broadway devant des millions de personnes. Et puis tournée triomphale dans tout le pays. Puis ensuite, ils sont invités partout dans le monde. Le 9 octobre 1969, ils seront à Paris. On leur remet des médailles et des décorations. C'est plus fatigant que leur expédition sur la Lune. Mais avant de clore cette émission, il faut que je vous parle de Luna 15. Luna 15, c'est la sonde soviétique qui est partie pour la Lune 3 jours avant la Saturne 5, sur la même trajectoire. Comme les Russes ne communiquaient jamais leurs objectifs, à la NASA, on s'est posé des questions. Luna 15 allait-elle mettre en danger la vie des astronautes? Faut dire que la fusée géante N1, qui devait envoyer des cosmonautes sur la Lune, avait un mois avant explosé au cours d'un tir de qualification. Elle avait explosé en détruisant le pas de tir, et en détruisant aussi les espoirs soviétiques d'envoyer un homme sur la Lune avant les Américains. On croit savoir maintenant que l'objectif de Luna 15, c'était de se poser sur la Lune, de ramasser quelques morceaux de roches et de cailloux, et de les ramener sur Terre avant le retour d'Apollo 11. Et la propagande soviétique aurait alors eu beau jeu d'expliquer que d'envoyer des hommes sur la Lune, ça servait strictement à rien, puisque le même travail pouvait être fait par leur sonde automatique. Ben voyons. Luna 15, après une cinquantaine de révolutions autour de la Lune, a bien atterri dans la mer des Crises, à 800 km du LEM. Mais pas vraiment comme prévu. Elle s'est crachée et a été pulvérisée. Voyez, le dernier coup de poker des Russes s'est soldé finalement par un fiasco. Fin de la course à la Lune. Oh, bien sûr, vous trouverez sûrement des personnes qui vous diront que tout ça, ça n'a jamais existé, que tout ça, ça a été filmé en studio. C'est ce qu'on appelle la théorie du complot, les révisionnistes. C'est la mode aujourd'hui. Et c'est les mêmes, d'ailleurs, qui vous disent que la Terre est plate, sous prétexte que, quand on va en Australie, on n'a pas l'impression d'être à l'envers. Et pourtant, aujourd'hui, les sondes en orbite autour de la Lune, comme LRO, Lunar Reconnaissance Orbitaire, elles prennent des photos très détaillées des sites d'atterrissage des missions Apollo, des sites où on voit très distinctement des traces de pas. Théorie du complot. Bon, allez, j'arrête là. Merci de votre fidélité, les amis. À bientôt.
Écoutez la voix du Béarn sur 95.10.